Jean Clerc par Edmond Henri Crisinel. C'est en 1929, une après-midi de printemps, que je lui fis ma première visite à son atelier de Mont-Repos. Il achevait un petit torse de femme coupé à mi-jambe et sans bras, d'une grâce exquise. Je savais qu'une grande passion, la sculpture, dirigeait sa vie depuis l'enfance avec cette force irrésistible qui permet de reconnaître en elle une vocation véritable. Il fut sensible à l'émotion que spontanément je tentais d'exprimer devant ces travaux d'adolescent qui me révélaient une sensibilité, un talent, une pensée. Ainsi débuta cette amitié qu'il voyait au-dessus de toutes les mêlées comme une lumière fixe, immuable. Il avait à cette époque un visage douloureux, miroir d'une agitation continuelle qu'il cherchait à démentir devant témoins par une contenance surveillée, un calme qu'il n'obtenait pas sans effort. Ses grands yeux bruns, dans ce visage d'une chaude pâleur, et toujours frémissant, avaient un éclat, une intensité d'expression qu'on ne pouvait oublier. On était aussi frappé d'emblée par une sorte de langueur triste et silencieuse, un accablement de tout l'être. « J'ai été assez inquiet et tourmenté ces jours, » m'écrivit-il un jour, pour s'excuser de m'avoir laissé quelque temps sans nouvelles. Mais c'est toujours au moment où j'ai le plus besoin de certaines présences que, par une sorte de lassitude, je ne fais rien pour voir les êtres vers lesquels je me sens attiré. Très secret, une expérience précoce, longuement mûrie par ses méditations juvéniles, l'avait-elle prévenu contre la malignité, l'indifférence des hommes ? Je crois plutôt qu'une extrême et touchante pudeur, le désir de préserver ses sentiments les plus intimes de toute atteinte extérieure qui les eût simplement effleurés, l'empêchait de se livrer avec un abandon sans frein. Une étrange peur le retenait, presque toujours, au bord de la confidence. Il aimait profondément la vie, et la vivait sur un mode précipité. Il voulut tout embrasser, tout absorber. Il y mettait une ardeur splendide mais inquiétante. Baudelaire, l'idole de ses 15 ans, dont il gravait amoureusement le nom sur les pierres, avait marqué son esprit d'une empreinte ineffaçable. Ayant éprouvé plus tard le besoin d'une discipline, il s'appuya sur Alain pour brider sa jeune fougue romantique. Il savait déjà que sa vie serait brève. Je l'entends encore me dire, de sa voix sourdement passionnée, que soulignait un geste impatient, « Je suis pressé ». Il faisait allusion à son œuvre, dont il n'ignorait pas qu'elle exigeait un immense labeur. On ne comprendrait rien à ses angoisses, à son humeur souvent farouche, à ses longs découragements, si l'on ne tenait pas compte des pressentiments qui l'agitaient, et dont je ne suis pas seul à avoir entendu l'aveu. Il travaillait cependant avec une brûlante énergie, aussi longtemps qu'il pouvait disposer d'un modèle, que ses forces ne l'abandonnaient pas, ou qu'un mauvais rhume ne le retenait pas au lit, où ses mains, qu'il avait singulièrement belles, longues et minces, tourmentées comme son âme, fluidique, modelaient encore d'émouvantes figurines de cire. J'avoue que, tout au début de notre amitié, je m'étonnais de sa hâte, et que ses soucis, dont il me parlait souvent, ne me semblaient pas aussi effrayants qu'à lui. Ses airs irrités, quand il devait s'absenter de Lausanne pour un bref séjour de repos que nécessitait sa santé, me laissaient surpris. Dans ses lettres perçait alors un violent désespoir. Il s'efforçait de me faire sentir le tragique des heures perdues. Pensez un instant à la somme d'efforts et de travail que j'ai à fournir pour atteindre le but, lointain, peut-être inaccessible, mais en tout cas très beau, que je me propose, et autant que je perds. C'est littéralement affolant. Il faudrait travailler presque continuellement, et au lieu de cela, je ne puis le faire que 12 heures par semaine. Je compris mieux ensuite que, de santé délicate et conscient de sa faiblesse, les difficultés matérielles inhérentes à la vie des artistes, et particulièrement du sculpteur, fussent pour lui des sujets d'inquiétude qui revenaient constamment dans nos conversations et notre correspondance. Mais si désespéré qu'il fût, et je l'ai vu dans des moments de détresse poignante à toutes les phases de nos relations, il retrouvait toujours devant le buste ébauché, le nu dont se précisaient les formes, un magnifique élan, une force qui le transfigurait, victorieuse, tant que durait l'effort créateur, de tout ce qui s'acharnait à dévaster son arme. Rares étaient alors, 1929-1930, les personnes qui manifestaient de l'intérêt pour son œuvre naissante. Cet isolement dont il souffrait ajoutait à ses appréhensions, lui qui doutait de lui-même si douloureusement. « J'ai la manie du doute, » bougonnait-il parfois, avec un mouvement d'humeur. Sensible et fier, il prévenait l'indifférence supposée du visiteur par une sorte de brusquerie qui n'était pas sans charme. Le lendemain, on avait une lettre. « Pardonnez-moi d'avoir été méchant. J'ai toujours été inquiet, mais maintenant, c'est pire que jamais. » Il avait une soif de ferveur, une avidité de tendresse et de compréhension que ses amis s'efforçaient d'apaiser. En 1931, des traverses dont son imagination, inspiratrice à la fois d'œuvres et de fantasmes, exagéra peut-être l'importance, l'affectèrent profondément. Elles agirent comme un poison sur cette nature extraordinairement réceptive et sans défense contre les atteintes de la vie. De nouveau, la réalisation de l'œuvre entrevue lui sembla plus lointaine, plus inaccessible. Il entra, à la fin de cette année, dans une longue et ténébreuse crise. « Jamais je n'ai été aussi bas, aussi faible et désarmé, » me confiait-il. « J'ai eu un moment d'abdication totale, et j'ai dû faire un immense effort pour me redresser. » Cependant, de nouveaux amis venaient à lui, subissaient son charme, s'enthousiasmaient pour son art. Il ne devait plus désormais trouver ici-bas le repos, ni même ces accalmies rafraîchissantes que connaissent tous ceux qui souffrent. Le sommeil le fuyait. « J'ai mal, je suis là, j'ai peur de mourir, je ne dors ni ne mange », m'écrivait-il en novembre 1932. La fin de sa vie m'apparaît aujourd'hui comme une course haletante et pressée vers la catastrophe, qui donne un sens si pathétique à sa brève existence, et qui se dérobait à notre vue malgré d'obscurs mais réels avertissements. Fatalité, destin, les anciens n'eussent pas hésité à traduire ainsi le signe qui marquait le front de cette victime, dévorée et brûlante. À dire vrai, je n'entrevoyais plus, pour mon ami, depuis assez longtemps, d'autres voies possibles que celles que nous ouvre l'Évangile. J'espérais bien que ce merveilleux créateur de formes, sensuellement épris du monde visible, mais aussi voué de tout temps à une incessante et crucifiante douleur, qui s'irradiait en haute spiritualité, en nobles poèmes de bronze et de terre, trouverait un jour la paix dans la révélation de l'ordre surnaturel. Talent, beauté, passion, il avait, avec la poésie d'une jeunesse méditative et repliée, les dons les plus admirables. J'ai vu s'anéantir tout cela le jour où j'ai perdu celui qui me vouait une amitié fraternelle, et qui, depuis 4 ans que je le voyais œuvrer, me donnait tant de joie. Pully, février 1934. Fin de Jean Clair par Edmond-Henri Crisinel. Enregistré par Christiane Johanne.